Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, du verset 1er au verset 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et qui les a trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voilà la parole du Seigneur. Le Seigneur adresse cette parole à l'église d'Éphèse. Et lorsque nous lisons ce que le Seigneur dit, à partir du verset 2, nous voyons que ce sont des qualités qui sont acceptables, qui sont louables. Et Dieu lui-même apprécie cela. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je vois que tu es persévérant. Je sais que tu ne supportes pas les méchants, que au fond de toi, il y a quand même l'esprit de vérité qui fait que tu rejettes ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui sont faux. Tu les rejettes. Il dit que tu as souffert pour mon nom. Donc on peut comprendre par là que cette église a connu des difficultés. Les choses n'ont pas toujours été faciles. Mais malgré tout, cette église a persévéré. Cette église a continué à servir le Seigneur. Il dit, tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Donc, aux yeux des humains, lorsque nous voyons l'église d'Éphèse, on dirait que c'est une église presque parfaite, qui fait bien son travail, qui est correcte, qui a la crainte de Dieu, qui a l'esprit de vérité, qui refute les faux, qui aime le Seigneur. Mais voilà le constat que le Seigneur fait, n'est pas le même que nous faisons. Le Seigneur dit, tout ce que tu fais, tu as des bonnes œuvres, tout cela est bien, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné l'amour pour moi. Donc on peut imaginer que cette église est arrivée à un point où elle faisait les choses correctement, mais sans réellement avoir une relation avec Dieu, sans réellement avoir une motivation pour Dieu. Les choses se font, il y a des réunions, le mardi, le mercredi, le vendredi, le dimanche, il y a des activités qui se font, il y a tout un système qui est mis en place, qui fonctionne bien, mais Dieu dit, le problème que j'ai contre toi, c'est que ma relation avec toi, tu l'as abandonnée. Notre exhortation de ce soir, c'est de méditons notre relation avec Dieu, méditons notre intimité avec Dieu. Donc, c'est possible de venir au culte, c'est possible d'être même zélé pour le Seigneur dans les activités, présent, ponctuel, c'est possible. Mais Dieu dit à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que la relation qu'on avait autrefois, la relation de prière, lorsqu'on parle d'une relation amoureux, c'est une relation intime où on se dit les choses, où on partage les choses, où on partage les chagrins parfois, où on partage les joies, où on dit notre peur, où on se confie. Et cette église, si Dieu dit tu as abandonné cela, c'est que quand elle a commencé, elle se confiait en Dieu. Elle disait à Dieu ses problèmes. Lorsqu'elle avait des difficultés, elle criait à Dieu pour dire « Seigneur, aide-moi » parce que c'est une lettre qui est adressée à une église, mais nous aussi, nous comprenons que ce message est adressé à tout chrétien. Individuellement, ce message nous concerne tous. Donc, on peut être apparemment chrétien, dans les activités, dans le travail de Dieu, dans l'évangélisation, dans les chants, dans la louange, dans toutes ces choses-là. Mais la question du Seigneur, c'est, est-ce que tu as la relation, une relation personnelle avec moi? Est-ce que tu fais les choses parce que tu sais les faire? Parce que l'homme, quand il arrive à un certain niveau, eh ben, il se repose sur ses capacités. S'il sait parler, eh ben, il va se reposer sur son intelligence. Parfois, on lui dit, prêche, il va se servir de ce qu'il a déjà prêché autrefois. Plutôt que de s'attendre à Dieu, il va dire, en fonction de telle situation, le message que je vais apporter, ça sera celui-là. Donc, en fonction de son intelligence, l'homme peut faire aussi des choses qui vont paraître correctes, qui vont aussi toucher même le cœur des gens, parce que ça reste quand même Dieu qui agit derrière. Mais Dieu dit, le problème que j'ai contre toi, c'est que tu as négligé le temps de prière. Tu as négligé le temps de louange. Tu as négligé le temps où tu es là. La prière, enseignement de base, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est écouter Dieu. Et en tant que chrétien, on a besoin de ce temps-là. On a besoin de se retrouver seul à seul avec Dieu. On a besoin de se retirer. Le Seigneur dit, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre. Retire-toi. Individuellement, parlons. Alors la question d'aujourd'hui, c'est méditer quelle est ma condition devant Dieu. Quelle est ma relation avec le Seigneur? Est-ce que ma relation est superficielle? Tout le monde voit que je suis utile, je suis correct. Tout le monde voit que j'ai un bon témoignage. Toutes ces choses sont bonnes. C'est bon. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est une relation avec l'homme. Une relation de père et fils. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, parlez, dites votre père. Or, il parlait à des juifs. Pour les juifs encore aujourd'hui, Dieu est tellement loin. Dieu est tellement inaccessible. On voit lorsque nous lisons l'Ancien Testament, entrer dans la présence de Dieu, c'était difficile. Il y avait tout un protocole. Il y avait un endroit où n'importe qui ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Et Jésus dit, maintenant lorsque vous priez, dites notre Père. Donc quand on parle du Père, on voit quand même qu'il y a une relation de famille. Il y a une proximité. On peut se dire les choses. L'enfant se confie en son Père. Il sait que son Père est là pour pourvoir à ce besoin, pour l'aider, pour calmer ses peurs, pour le rassurer lorsqu'il est dans la crainte. Et Dieu dit à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que la relation intime, la relation, lire la parole, la question c'est est-ce que, à part les réunions que nous avons ici, il nous arrive à la maison d'être avec le Seigneur, dire Seigneur, parle-moi, je prends ma Bible, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. C'est ça la question que le Seigneur nous pose. Il dit à cette église, tu as beaucoup d'activités, tu as tout ça. Tout ça est impeccable. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as négligé le plus important. Le plus important, c'est d'être en relation avec moi. Le plus important, c'est d'écouter aussi ce que j'ai à te dire. Le plus important, c'est d'écouter aussi ce que j'ai à t'enseigner. Le plus important, c'est de t'écouter aussi, entendre ce que tu as à me dire. C'est cela. Alors, en tant que chrétien, ça peut nous arriver très vite, très rapidement. Avec les réunions qu'on a, on se dit, quand je rentre à la maison, je vais me reposer. Et si nous sommes dans ce cas-là, le Seigneur nous interpelle, moi le premier, le Seigneur nous interpelle en disant, non, ce n'est pas cela qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse vivre avec lui. Qu'on puisse partager avec lui. Qu'on puisse profiter de ce temps-là. On se rappelle lorsque les pharisiens viennent voir Jésus pour dire, voilà tes disciples, ils ne se lavent pas les mains, ils ne font pas ci. Il dit, mais tes disciples ne jeûnent pas. Il dit, mais pourquoi vont-ils souffrir à jeûner alors que l'époux est avec eux? Nous jeûnons pour chercher la face de Dieu. Et eux, ils étaient avec Jésus. Donc Jésus dit en quelque sorte, tant que je suis là, ils doivent profiter pleinement de moi. Ils doivent profiter pleinement, me connaître. C'est ça que le Seigneur veut. Nous lisons Luc chapitre 10, verset 38. Luc 10. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur est reçu chez Marthe et Marie. Et Marie et Marthe, comme cela est de coutume pour recevoir quelqu'un qui est assez important, eh bien, on fait un repas. Et Marthe est bien intentionnée. Marthe veut recevoir, veut honorer le Seigneur. Alors elle s'attelle à préparer le repas, à cuisiner. Elle est à gauche, elle est à droite. Et finalement, elle s'agace de voir que sa sœur ne vient pas l'aider. Alors elle vient se plaindre auprès du maître en disant, « Seigneur, est-ce que ça te laisse indifférent? Tu trouves normal en quelque sorte que moi, je m'occupe de te préparer le repas alors que ma sœur est assise. » Le Seigneur dit, on voit la détresse, on voit la tristesse, il dit, mais Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Jésus veut dire à Marthe, mais ce que moi j'ai à te donner, ce que moi j'ai à t'apporter, c'est plus important que ce que toi tu fais. Jésus ne dit pas que ce que Marthe fait est mauvais. Mais il dit, je suis tellement important, alors viens profiter. Et ce texte nous montre vraiment le cœur de ce message, c'est prendre un moment pour s'arrêter et passer le temps avec le Seigneur. Prendre un temps pour s'arrêter. Jésus dit, regarde, ta sœur a choisi la bonne part. Et bien souvent, il nous arrive aussi d'être dans la même attitude de Marthe. Activité ici, activité là-bas. Activité ici, activité là-bas. Et on néglige le plus important. Mais il y a aussi un enseignement dans ce texte. Qu'est-ce qu'on voit? Finalement, Marthe qui est bien intentionnée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est agacée de voir sa sœur qui ne travaille pas. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? On comprend par là que lorsque on néglige le temps avec le Seigneur, généralement, je dis bien généralement, si on est honnête, on va commencer à devenir irritable. On va commencer à devenir dans l'accusation des autres. On va commencer à chercher la faute chez les autres. Lorsqu'on néglige la méditation, le temps de prière, le temps de lecture de la parole avec le Seigneur, sincèrement, généralement, on va se retrouver dans cette situation-là. Je pense que si on est sincère, moi le premier, ça nous arrive. On voit quelque chose, oh, on voit quelque chose, on murmure, on n'est pas content. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, ce sont des signaux qu'il envoie pour nous dire attention. Là, tu tombes dans l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de voir la faute toujours chez les autres. Moi, je suis correct. Et les autres, c'est toujours les autres. Il a mal fait. Oh, il est toujours en retard. Oh, il est toujours comme ça. Oh, il manque toujours de sagesse. Oh, oh, c'est ça. Et si on est honnête, avec le Seigneur, on comprendra que on a eu une baisse. On a négligé peut-être la prière. On a négligé peut-être la lecture de la parole. Parce que quelqu'un qui passe le temps dans la prière, quelqu'un qui passe le temps dans la présence de Dieu, eh ben, il ne va pas s'énerver à tout bout de champ. Il ne va pas passer son temps à bouder. Il ne va pas passer son temps à garder des choses dans le cœur. Non. Quand il veut rentrer dans la présence de Dieu, eh ben, il se rappelle, il dit, ah, la parole dit, si tu veux donner ton offrande, souviens-toi que tu as quelque chose contre quelqu'un. Va, arrange cela. Alors à ce moment-là, eh ben, il va arranger parce que il est conscient que je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec la colère dans mon cœur. C'est pas possible. Il est conscient de cela. Et très souvent, soyons honnêtes, quand il arrive des périodes où nous sommes toujours dans la rancune, dans la rancœur, dans l'amertume, généralement, nous avons négligé le Seigneur. Et ce texte nous montre que le Seigneur est toujours là. Il est là, il est assis. C'était Jésus. C'était Jésus qui était là. Et Jésus est triste, il dit, mais tu ne te rends pas compte que moi je suis là, moi le Seigneur. Je suis là pour toi, Marthe. Mais regarde, tu me négliges. Et c'est ce qui nous arrive aussi. Alors soyons honnêtes, regardons dans nos relations autour de nous. Lorsque nous sommes souvent agacés, lorsque nous sommes souvent dans les plaintes, lorsque nous sommes, si nous sommes honnêtes, le Saint-Esprit nous parlera pour nous dire, tu as négligé la prière. Puisque c'est dans la prière qu'on croit que Dieu va changer les choses. La colère, c'est quoi? La colère, c'est, on se dit, comme on le dit souvent, c'est-à-dire qu'on a perdu les moyens. Mais puisque on est impuissant face à la situation, on manifeste la colère. C'est cela. Or, celui qui connaît Dieu, qui aime Dieu, il peut arriver qu'il tombe dans la colère, mais il se ressaisit parce qu'il sait que la situation, c'est Dieu qui va la changer. Il est conscient de cela. Alors il se dit, pourquoi s'énerver, comme Jacques 1:21 dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors bien souvent, quand nous sommes dans des mauvais sentiments, le Seigneur nous dit, tu as négligé, j'ai négligé la prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu t'humilies? Est-ce que tu prends le temps avec le Seigneur? Mon mari m'a fait ceci. Il a encore fait cela. Ma femme a fait ceci. Elle a encore fait cela. Eh bien, on pourra se plaindre du matin au soir. Malheureusement, on sera triste. Malheureusement, on va bouder dans son coin. Mais quand on est honnête, on sait que non, ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas l'autre le problème. Le problème, c'est moi. Et voilà l'attitude de Marthe qui avait de bonnes intentions, qui voulait recevoir le Seigneur, mais finalement, ses bonnes intentions elle-même, sa force elle-même, parce qu'elle voulait faire des choses par elle-même, par sa force. Mais finalement, les bonnes intentions qu'elle avait ont produit quoi? La colère finalement. Donc, or la Bible dit qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Soit l'arbre est bon, les fruits aussi sont bons. Et c'est ce que Jésus a voulu montrer aussi à Marthe en disant, mais si ton intention est bonne, comme il y a des gens, tu veux aider quelqu'un, tu vas conseiller une personne, la personne te rejette, tu te fâches. Mais il y a un problème. Si ton intention est bonne, tu es conscient que c'est bon, va faire ce que tu as à faire. Si on te rejette, tu dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Mais toi, tu viens pour aider une personne, la personne te rejette, t'insulte, tu te fâches aussi. Finalement, vous êtes tous pareils. Finalement, vous êtes tous pareils. L'intention de Marthe était bonne. C'était de travailler, d'aider le Seigneur, de recevoir le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, Marthe, prends une pause. Prends une pause. Et souvent dans notre tête, on se dit, c'est comme une perte de temps. Mais ça, c'est la chair. La Bible est claire. La Bible dit dans Galates 5 que la chair n'aime pas tout ce qui est lié à l'esprit. De prendre un temps, 5 minutes, 10 minutes, s'asseoir pour prier, la chair va te dire, bon, voilà, tu étais à l'église ou tu iras à l'église. Non, non. Le Seigneur veut qu'on ait un temps intime, un temps personnel avec lui. Si nous sommes sincères, nous allons voir que bien souvent, quand on se plaint, en réalité, c'est nous qui avons un problème. Et quand nous sommes dans cet état qui dure, malheureusement, ce sont des portes ouvertes et après on se surprend à dire « Mais Seigneur, tu m'as abandonné, voilà, je me retrouve dans tel... » Non, parce qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui avons négligé le Seigneur. C'est nous-mêmes qui avons négligé. Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, revenons, cherchons une relation personnelle avec lui. Cherchons une relation personnelle. Qui dira au Seigneur, mais j'étais là à Bethléem, on allait tel jour, tel jour, tel jour. Mais ça ne comptera pas pour le Seigneur. Ça ne comptera pas pour le Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est personnel. C'est qu'on médite sa parole, il dit à Josué. Il dit, voilà, Ce que j'ai promis à Moïse, je te le donne. La terre, je te la donne. Mais seulement une chose. Reste fidèle à moi. Garde la relation que tu as. On se rappelle, lorsqu'on a fait l'étude biblique sur Moïse, on se rappelle de Josué. Son attitude, c'était quoi? Il restait dans l'attente. Alors que Moïse partait, Josué restait dans la présence de Dieu. Et lorsque Dieu appelle Josué, il lui dit maintenant, n'oublie pas que ce livre de la loi, que la parole là, que tu as toujours lu là, continue à la lire. Continue à méditer, en quelque sorte, pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est continuer à méditer la parole de Dieu, continuer à prier. Et il dit, tu verras ce que je veux faire. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Souvent, on prend seulement ce passage-là, tout simplement, alors qu'on n'a pas une vie véritable avec le Seigneur personnel. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse avoir un temps où on dit pause. On dit pause, on dit Seigneur, là, je veux passer du temps avec toi. Seigneur, là, je veux te parler. Seigneur, là, je veux te dire les choses. Seigneur, voilà mon problème. Le Seigneur veut qu'on ait ce temps-là, qu'on s'arrête. Et si on néglige ça, comme il a dit à cette église d'Éphèse, il a dit, le chandelier que tu as, je vais le retirer. Je vais retirer cela. Et malheureusement, beaucoup se retrouvent dans des problèmes. Beaucoup se retrouvent dans des situations où ils se disent, mais comment j'ai pu arriver là? Mais en réalité, c'est parce que on n'a pas pris ce temps de pause avec le Seigneur. Un temps où on est seul, seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, Dieu s'est révélé à chacun individuellement. Ces gens-là, ils connaissaient, et lorsqu'on lit, ils parlent, le Dieu de nos pères, Abraham, le Dieu de nos pères, Isaac, le Dieu de nos pères, Jacob. Mais ces gens-là avaient aussi une relation personnel avec Dieu. Lorsque ces gens donnaient des noms à Dieu, ils n'avaient pas entendu ça. Lorsqu'Abraham dit « L'Éternel j'irai qui pourvoit », ils n'avaient pas entendu ça quelque part. C'est parce qu'il avait une relation personnelle avec Dieu. C'est parce qu'il parlait à Dieu, il écoutait Dieu. C'est parce qu'il obéissait à la parole de Dieu, individuellement. Et c'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Alors bien souvent, lorsque nous négligeons le Seigneur, lorsque nous le relâchons, c'est là que nous passons à côté. C'est là que nous sortons même de la volonté de Dieu. On se rappelle de l'exemple d'un homme que nous connaissons très bien, David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas n'importe qui. David était un homme qui craignait Dieu, qui aimait Dieu. Mais on se rappelle lorsque il fallait aller combattre, David s'est dit, je suis fatigué. Je vais me reposer. Et en voulant se reposer humainement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a convoité la femme de son serviteur Uri. Et nous connaissons la suite après de l'histoire. C'est qu'il y a eu le malheur qui est entré dans sa maison. Mais David a été honnête. Quand Nathan est venu le voir pour lui dire, voilà, il y a ceci, il y a cela, David a reconnu, il a dit oui, c'est vrai. En quelque sorte, j'ai négligé Dieu. J'ai négligé Dieu. Et comme je disais, bien souvent, quand on néglige la vie avec le Seigneur, bien souvent, on sort de la volonté de Dieu. Encore faut-il avoir l'humilité de dire, mais Seigneur, je comprends que c'est moi le problème. Je comprends que je me suis éloigné. Je comprends, Seigneur, que je me suis reposé comme cette église apparemment parfaite, correcte. Les gens qui viennent de l'extérieur, ils voient, ils disent, mais formidable. Mais Dieu dit non. Il y a un problème. Et le Seigneur nous dit, méditons notre relation avec lui. N'oublions pas que nous avons à avoir une relation tous les jours avec lui. Au-delà de la relation que nous avons ensemble entre frères et sœurs, individuellement, Dieu veut quelque chose avec nous tous les jours. Nous lisons 1 Timothée 4. Timothée, chapitre 4. À partir du verset 11. 1 Timothée 4:11. Déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de toutes ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Timothée était jeune lorsqu'il a été appelé pour servir le Seigneur. Et Paul encourage Timothée, il lui dit que personne ne méprise ton jeune âge. Mais il lui dit aussi, il dit fais attention, les choses que tu prêches aux autres, toi-même, vis-le aussi avec le Seigneur, personnellement. Pratique ces choses. Donne-toi tout entière à elles. Il dit, veille sur ton enseignement. Ainsi, en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même, mais tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Veille sur ton enseignement. Une relation personnelle avec Dieu. Il dit, ce que tu entends, considère que c'est pour toi. C'est ça que Paul veut dire. Ce que tu dis aux autres aussi, considère que c'est Dieu qui te parle et ça concerne aussi les autres. Combien de fois il nous est arrivé, moi le premier, d'écouter un message, d'écouter quelque chose, on se dit, ah, j'aurais bien voulu qu'un tel soit là. J'aurais bien voulu qu'un tel entende. Paul dit à Timothée, non, veille sur ton enseignement. Ce que toi-même tu dis là, toi-même, veille dessus. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du salut des autres, parce que quand on prêche, c'est pour amener les autres au salut, à la repentance. Mais il dit, considère aussi que toi, tu as une relation aussi à entretenir avec Dieu. Il dit, fais attention. Si tu agis ainsi, eh ben, tu te sauveras toi, mais tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. C'est cela. Et l'apôtre Paul lui-même, il dira la même chose pour lui dans Corinthiens 9. Il dit, je traite durement mon corps de peur de n'être désapprouvé après avoir parlé aux autres. Après avoir parlé aux autres, moi-même, je m'applique cela. Par la prière, par le jeûne, par la lecture de la parole, moi-même, j'applique tout ce que je dis aux autres. Moi-même, je me l'applique. Parce qu'il a compris que c'est une question de salut. Il dit, pourquoi de peur de moi-même être désapprouvé? La Bible dit dans Matthieu 16, 26, à quoi ça sert de gagner le monde, d'être applaudi, du bien travailler, si finalement on est rejeté, si finalement on n'est pas sauvé. En quelque sorte, si finalement, nous-mêmes, on n'a pas une communion avec le Seigneur. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Si on peut faire des choses et que nous-mêmes, on n'a pas de relation avec Dieu. Le Seigneur nous dit, aujourd'hui, méditons, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai peut-être négligé la prière? Ou est-ce que je prie peut-être même, mais je prie pour qu'un tel voie que je prie? Je prie pour qu'un autre sache que, ah, quand il se retire, il va prier le Seigneur. Ou alors je prie parce que je réalise, comme Jésus dit dans Jean 15, 5, que sans moi, vous ne pouvez rien. Je prie parce que j'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de mon Père. Je prie parce que je réalise que sans Dieu, je ne peux rien. Alors c'est ça la question aujourd'hui. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, dans quelles conditions il nous trouverait? Est-ce qu'il nous trouverait dans l'église, dans l'état de cette église d'Éphèse? Est-ce qu'il va nous trouver dans l'état de Marthe, qui aime travailler, qui aime se mettre à l'ouvrage, mais qui finalement néglige le Seigneur qui est là? Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, fais attention. Veille sur toi-même, veille sur ton enseignement. Ce que tu entends là, ça ne concerne pas un tel ou un tel. Ça te concerne toi-même. Ça te concerne toi-même. Et c'est quand on passe le temps avec le Seigneur que parfois, il y a des fois, ça nous arrive. Parfois, on lit un passage. On s'attend à une réponse de Dieu. On lit un passage mais qui n'a rien à voir avec ma situation. On se dit, mais ça n'a rien à voir. Mais Dieu est Dieu. Il est le Dieu d'âge en âge. Donc, il est sage. La sagesse par excellence. Et parfois, 3 ans après, on se rappelle que, ah, mais finalement, le passage, le verset qu'on m'avait donné, que j'ai lu, finalement, Dieu me préparait à une épreuve à venir. Mais sur le coup, lorsqu'on lit ça, bon, sans plus. On pense peut-être que, ah, la situation, c'est lié à telle personne. Donc, il faut que j'appelle un tel pour lui dire. Et là, Paul dit à Timothée, il dit, considère que tout ce que tu entends là, tout ce que tu donnes même aux autres, considère que toi-même, tu es le premier. Parce qu'il est possible d'être disqualifié, mais notre Dieu est bon, notre Dieu nous aime. Il veut nous sauver, amen. Il ne veut pas que nous nous perdions. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que nous puissions vivre une vie d'obéissance tous les jours. Une vie de prière, une vie de méditation de sa parole. C'est ça que Dieu attend. C'est ça que Dieu attend. Nous lisons Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Voilà ce que dit le Seigneur. Il dit en ce jour-là, beaucoup seront surpris. Ils diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas été présents à telle réunion, à tel concert? N'ai-je pas chanté à la chorale? N'ai-je pas fait ceci ou cela? Alors la question c'est, si le Seigneur revient aujourd'hui, dans quelles conditions il va me trouver? Et ça, c'est une réponse personnelle à donner. Moi, le premier. C'est une réponse personnelle. Est-ce que je suis dans la religion, c'est-à-dire faire des choses pour moi-même me sentir correct vis-à-vis de Dieu et que les autres aussi voient que je suis correct? Ou est-ce que j'ai une relation sincère avec Dieu? C'est ça la question. Et il dit, beaucoup en ces jours-là seront surpris en disant, mais Seigneur, nous avons été là, mais nous avons travaillé. J'étais ponctuel, j'étais là. Seigneur dira malheureusement, je ne te connais pas. Pourtant Dieu sait tout. Dieu connaît toutes choses. C'est lui le créateur. Il connaît tout humain sur la terre. Mais ici, je ne te connais pas. On peut comprendre que on a jamais eu une relation ensemble. On n'a jamais eu un rapport intime ensemble. On n'a jamais eu un rapport de père et fils ensemble, non. On n'a jamais eu ce rapport-là. Mais ce rapport-là, voilà comment? C'est par la prière. C'est par la méditation de la parole. C'est par la prise d'un temps seul avec Dieu. Je ne dis pas que c'est un temps tous les jours qui va durer une heure, non. Mais dans tout ce que je fais, comme on partageait hier à Ponto de Mer, donc dans tout ce que je fais, même si je suis au ménage, pendant que je fais le ménage là, je dis Seigneur, merci pour la force que tu me donnes. Je ne fais pas le ménage pour que les gens voient, ah, un tel vraiment. Il s'humilie en costume, il fait le ménage. Mais pendant que je fais la chose, parfois il y a le sentiment humain comme ça qui monte pour se satisfaire en disant, voilà, les gens voient que je suis là. Non, on dit non, Seigneur, moi je ne veux pas ça, moi. C'est toi que je veux. Seigneur, je le fais par amour pour toi. Merci pour la force que tu me donnes. Et il est important de prendre ce temps-là tous les jours, de prendre ce temps pour s'arrêter. Et le Seigneur dit à ces gens, je ne vous ai jamais connu. On n'a jamais eu une relation. On n'a jamais eu un rapport ensemble. Tu ne m'as jamais parlé. Je ne t'ai jamais entendu. Malheureusement, ce texte nous montre que ce qui importe pour Dieu, c'est qu'on ait une relation. Qu'on ait une relation avec lui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, bien souvent, que ce soit dans les couples, que ce soit avec les amis, les familles, généralement, lorsque on n'est pas bien, c'est parce que on a négligé la vie de prière avec le Seigneur. On a négligé la vie de intime avec le Seigneur, généralement. C'est cela. Et le Seigneur veut nous ramener aujourd'hui. À nous humilier, à dire, Seigneur, c'est vrai. Je suis devenu chrétien professionnel. C'est possible. Je suis devenu chrétien professionnel, donc c'est un métier. Je suis là présent, mais finalement, en réalité, il n'y a rien. Avec toi, il n'y a rien. Il n'y a aucun rapport. Le Seigneur veut que nous puissions prendre ce temps-là. Ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. La chair va te dire, mais tu as déjà écouté. Ta femme ou ton mari va te dire, mais tu étais à l'église, là, on a prêché. Tu étais encore la semaine, tu vas encore à la maison. Non. David dira un jour dans tes parvis, c'est plus que 1000 jours ailleurs. Lui qui avait un palais royal. Mais il estimait qu'être avec Dieu, c'était le plus important. C'était ça. Vivre une vie avec Dieu, c'était ça le plus important. Lorsqu'on se surprend de voir l'attitude de David, comme on nous dit souvent, chrétien avant l'heure, qui surmonte le mal par le bien, qui ne se venge pas, qui ne maudit pas ceux qui lui veulent du mal. C'est pourquoi ? C'est parce que David savait prendre le temps avec Dieu. David avait une relation personnelle avec Dieu. À chaque fois qu'il devait aller en guerre, David consultait l'Éternel. Pourtant, il avait des vaillants héros, des vaillants guerriers, pardon. Des vaillants, des hommes forts, il les avait. Mais à chaque fois, David consultait Dieu. Éternel, dois-je y aller? Dois-je y aller? Dieu lui dit, vas-y, il y va. Et c'est la même chose pour nous. Dieu veut que nous puissions avoir une relation avec lui. Et Paul dit à Timothée, si tu fais ça, si tu travailles à cela, tu te sauveras toi-même, mais tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. C'est ça l'ordre de Dieu. Dieu veut qu'on ait d'abord, nous, une relation avec lui. Lorsque nous avons une relation avec lui, alors il va maintenant se servir de nous, puisque nous avons une bonne relation avec lui, pour toucher aussi notre entourage. Voilà pourquoi il est écrit dans Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ce croire-là, ce n'est pas seulement dire « Je suis chrétien, je viens à l'église. » Non, ce n'est pas cela. C'est une relation véritable avec le Seigneur. Au-delà de tout ce qu'il y a autour des activités que nous avons ensemble, individuellement, on a ce temps-là qu'on prend pour le Seigneur. Alors là, quand on respecte cet ordre de Dieu-là, eh ben, on peut être maintenant aussi un canal pour le salut des autres. On peut être aussi un canal pour le salut des autres. Voilà pourquoi très souvent lorsque Dieu donne des commandements à Israël, il est dur. Nous lisons toujours dans Matthieu 7, au début, lorsque le Seigneur dit, pour nous montrer que Dieu s'intéresse d'abord à nous-mêmes avant de s'intéresser aux autres. Matthieu 7, à partir du verset 1er. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peut-il dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà ce que le Seigneur dit. Bien souvent, lorsqu'on lit ce passage, on se dit, mais finalement, c'est dur. Donc finalement, comme je me rappelle, on a fait une étude biblique. Quelqu'un a dit, mais dans ce cas-là, on ne dira plus rien. Dans ce cas, on ne pourra plus dire rien à personne, parce que nous-mêmes aussi, on est aussi fautifs. Mais non, ce n'est pas ça que le Seigneur veut dire. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut dire. Le Seigneur veut dire, toi, sois correct. Obéis à la parole. Sois juste et une bonne relation avec moi. Lorsque tu as cette relation avec moi, maintenant, quand tu pourras aider l'autre, ton témoignage va parler aussi pour aider l'autre. Mais commence d'abord à t'appliquer ça toi-même pour que ce soit efficace. Pour que ce soit efficace, combien de parents qui, on le voit en tant qu'éducateur, des parents qui ont une vie dissolue, vont donner des conseils aux enfants. Le conseil, il est correct, il est bon. Ne fume pas, ne prends pas la drogue. Mais toi-même, tu fumes, tu prends la drogue. Donc le conseil, il est inefficace. Non seulement il est inefficace, mais l'enfant s'habitue même avec ça. Et donc lui, finalement, le modèle qu'il a, un mauvais modèle, eh ben voilà. Donc ce conseil-là ne fera même plus écho dans sa tête parce qu'il est habitué. Il est habitué à ce que, bon, on dit ça, mais finalement, il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne pratiquent pas. Ils s'habituent avec ça. Et Dieu dit non, attention. Occupe-toi de toi. Et une fois que tu te seras occupé de toi, alors tu pourras maintenant être efficace pour t'occuper aussi des autres. On voit la différence entre la pouille et la pâtre. Entre la poutre et la paille, on voit la différence. Une poutre, c'est quelque chose de costaud, de lourd. Il dit, tu as d'abord une poutre dans ton œil. C'est pour nous dire qu'on doit d'abord s'occuper de nous. Ainsi, lorsqu'on s'occupe de nous, on pourra maintenant être efficace pour aider aussi l'autre en face. On pourra être efficace. Mais Dieu dit d'abord toi. L'autre, on verra après, mais toi d'abord. Quelle est ta situation? Quelle est ta condition devant moi? Quelle est ta condition? Alors le Seigneur veut aujourd'hui que nous puissions réaliser que ce qu'il veut, c'est une relation avec lui. Ce que le Seigneur veut, c'est une vie ensemble. Et ainsi, lorsque nous avons cette vie-là, ensemble, avec le Seigneur, alors le Seigneur va se glorifier aussi autour de nous. Alors les choses qu'on pourra dire auront une puissance parce que son esprit va agir. Les choses que nous pourrons dire auront une puissance pour transformer aussi les autres. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit, applique-toi à toutes ces choses que tu dis. Non seulement tu te sauveras toi, mais tu seras utile aux autres. Mais il dit, applique-les à toi-même. Ne néglige pas cela. Ne pense pas que c'est pour un tel, c'est pour un tel. Non, toi-même, applique ça cela dans ta vie. Et lorsque tu appliqueras ça dans ta vie, alors, lorsque tu parleras à un autre, ben, le Seigneur va agir puissamment. Et l'autre aussi verra aussi le témoignage. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ne puissions pas négliger notre vie avec lui. Alors ne soyons pas des chrétiens professionnels, des chrétiens de carrière. Ne soyons pas ce genre de chrétiens. Soyons des chrétiens. Chrétiens, c'est comme Christ. Or, nous voyons le Seigneur Jésus lui-même. Il est écrit qu'il se retirait à l'aurore. Il allait prier. Il allait parler avec son Père. Lorsqu'il vient pour ressusciter Lazare, c'est un très bon exemple. Il dit, Père, je ne te prie pas pour que tu m'exauces ou pas, parce que je sais que tu m'exauces. Là, il n'y a pas de problème. Mais je prie pour que ceux qui sont là voient que c'est toi qui m'as véritablement envoyé. Donc on voit par l'exemple de Jésus lui-même qu'il avait cette relation avec son Père. Il dit dans Jean 5, il dit, le Fils ne fait rien de lui-même, tout ce qu'il fait, eh bien, il voit le Père faire. Il dit, jusqu'à présent, mon Père agit et moi aussi j'agis. Et nous terminons avec cela, l'exemple de Jésus-Christ qui a été notre exemple. Lui qui avait toutes les capacités, toute la puissance, mais il a accepté la condition humaine. et jusqu'au bout, en cherchant la communion avec son Père, en priant. Et c'est ça que Dieu veut. Qu'on prenne du temps pour prier. Parfois, avec... voilà, donc il y a un certain orgueil, on se dit, bon, je ne veux pas prier pour ça, je ne veux pas prier. Généralement, quand les problèmes sont grands, là, il n'y a pas de problème, on ne réfléchit même pas, on prie. Or, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on ait cette relation tous les jours, comme le Seigneur Jésus lui-même. Lui qui est fils de Dieu, qui est venu sur la terre, qui a fait des miracles, mais on voit que lui-même, il pratiquait ce qu'il disait, mais aussi, il avait cette relation avec son Père. Régulièrement. Il priait. Il priait. Et c'est ce que Dieu veut. Et quand il arriva à Gethsémané, les choses étaient difficiles. Il a dit, mon Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe, mais non, pas ma volonté, que ta volonté à toi soit faite. Et il est écrit, un ange est venu le soutenir. C'est ça qui se passe lorsque on passe du temps dans la présence de Dieu. Dieu nous soutient. Un ange, l'ange, nous ne voyons pas forcément des anges tous les jours. Mais nous savons que l'Esprit de Dieu est à l'action. Il agit. C'est ça. C'est ça que Dieu veut. Mais Dieu veut qu'on ait cette relation-là avec lui tous les jours. Qu'on ne soit pas des chrétiens carriéristes de carrière. J'ai tel CV, comme on a lu dans Matthieu 7:21. J'ai tel CV. Dieu dira non. Lorsqu'il regarde dans la liste de ses enfants, il dit non, je ne vois pas ton nom dans la liste. Je ne vois pas ton nom, malheureusement. Que le Seigneur nous aide, moi le premier, à considérer notre condition devant le Seigneur, devant lui, aujourd'hui. Dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai été comme cette église d'Éphèse. Peut-être que je me suis reposé sur les choses que je connais. Je me suis reposé sur mes capacités. Je me suis reposé sur les responsabilités qu'on m'a données. En tant que choriste, en tant que équipier, je me suis reposé sur cela. Mais j'ai négligé le fait de te chercher, de chercher ta face, de m'humilier, de prier. J'ai négligé le fait qu'à chaque fois que tu m'envoies des signaux pour me dire « reviens », j'ai été têtu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci, Seigneur, parce que tu nous parles, Seigneur. Et moi, le premier, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour, Seigneur, avoir peut-être négligé, Seigneur, de passer du temps avec toi, Seigneur. Seigneur, nous voyons lorsque tu parles à cette église d'Éphèse, nous voyons la tristesse que tu manifestes. Pourtant, une église qui... s'est donné tant de mal, mais qui a négligé la relation avec toi, Seigneur. Nous voyons l'exemple de Marthe qui a voulu t'honorer, te faire plaisir, mais qui a négligé le temps, Seigneur, que tu étais là, Seigneur. Et Seigneur, ça nous arrive aussi, Seigneur, de négliger, Seigneur, de passer du temps avec toi. Et nous voyons la réaction de Marthe. C'est que finalement, elle s'est irritée. Et bien souvent, nous nous irritons, Seigneur. Bien souvent, Seigneur, nous nous énervons. Parce que, Seigneur, nous négligeons, Seigneur, de passer du temps avec toi. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aujourd'hui à faire un examen de conscience, un bilan, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, vivre sans toi. Nous nous souvenons de la phrase de Moïse qui a dit que si toi tu ne marches avec le peuple, si toi tu ne marches pas avec le peuple, lui non plus, Seigneur, il ne voudra pas avancer, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que cette prière soit la prière dans nos vies aussi. Nous ne voulons pas marcher seuls. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi tous les jours. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous rappelle. Merci pour ton esprit qui nous rappelle aujourd'hui à considérer, Seigneur, le temps à passer avec toi, Seigneur. Non pas parce que nous savons prier, non pas parce que nous voulons que les gens voient que nous prions, mais puisque cela est nécessaire pour nous, Seigneur, puisque nous t'aimons tout simplement, comme notre Seigneur Jésus l'a montré, qui prenait plaisir à passer du temps avec toi, Éternel, son Père. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aussi. Nous prions pour que tu nous aides à ne pas nous négliger, Seigneur. À considérer, comme Paul a dit à Timothée, ta parole, les enseignements. À nous les appliquer, Seigneur. À considérer que c'est toi qui nous parles, Seigneur, pour nous corriger, pour nous instruire. À ne pas penser, Seigneur, que ça concerne un tel ou un tel qui m'a fait du mal, non. Mais à considérer que nous-mêmes, nous sommes les premiers destinataires, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Nous savons que Paul t'a servi. Paul avait le souci des âmes. Paul est allé de ville en ville. Mais il dit, dans toutes ces choses-là, moi-même, j'ai gardé une relation. Il dit qu'il a gardé la foi. Paul n'a pas négligé, Seigneur, cette relation. Dans les chaînes, dans les prisons, dans l'abondance. Paul n'a pas négligé cela. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aussi à rester attachés à toi, Seigneur. Merci pour ton esprit qui répond à nos questions aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur.